EMCI TV vous présente À table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
Hello, hello tout le monde, bon début de semaine, j'espère que vous allez bien, nous on est très heureuses de pouvoir vous retrouver en ce beau lundi. Bonjour les filles, heureuses Aurélie.
Ben oui,
je suis. Excellent, excellent, et si ça va bien par ici Nadège?
Très bien, merci.
Ça te va très bien ta nouvelle
coiffure, on aime
bien, valide. Si tu valides la nouvelle coiffure de Nadège,
oui.
Mais dis-le, je valide la nouvelle coiffure de Nadège.
Je valide la franchise.
Sachant que même si tu ne valides pas, eh bien, Nadège gardera la coiffure qu'elle veut. Je trouve ça très beau, Nadège.
Merci.
Ce degré de conviction, mais aussi ça te va très très bien.
C'est vrai?
Ouais, ça te va vraiment bien.
Merci.
Je sais pas, c'est chic, t'as un côté.
C'est la frange que j'aime.
Ouais.
Il va très bien.
Ça me donne des inspirations. La coiffure avec frange.
Moi, j'ai pas changé de coiffure depuis 20 ans. Donc,
mais ça te va aussi très bien, ta coiffure.
Je suis d'une stabilité. Hein. Certains appelleront ça peut-être autre chose que stabilité. Donc, aujourd'hui, nous parlons des étapes de la vie parce qu'on a appelé à évoluer dans la vie et il y a ces moments un petit peu charnières, cruciaux, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Il y a ces étapes dans la vie et en fait, soit on va le vivre avec la grâce du Seigneur et avec aussi une certaine connaissance, ou alors quelquefois on va subir ces moments et on se rend compte quelques années plus tard, mais pourquoi j'ai pris cette direction, pourquoi est-ce que j'en suis là aujourd'hui, c'est peut-être parce que dans ces moments un peu charnières, bah en fait j'ai pas pris les bonnes décisions et du coup bah aujourd'hui on est là pour parler de ces moments clés et comment est-ce que on peut être malléable, comment est-ce qu'on peut laisser aussi le Seigneur venir nous enseigner, nous apprendre, et ça commence très jeune en fait, hein, rien que quand tu passes d'une classe à l'autre, quand t'as 10 ans, quand tu deviens pré-ado, quand tu deviens ado, etc. Mais on va peut-être sauter plus à l'étape lycée-université, parce que je trouve que c'est quand même une grosse étape dans la vie des jeunes. Tu passes d'une scolarité qui est quand même assez cadrée, où tu peux pas faire n'importe quoi. Bon, ça dépend des lycées, ça dépend des établissements où t'es. À l'université, souvent tu vas devoir déménager. Il y a beaucoup de temps libre parce que t'as moins d'heures de cours, mais beaucoup d'heures de travail au final personnel. Donc c'est une liberté à apprendre à gérer tout ça, à apprendre à gérer un nouvel environnement. Parce que souvent quand t'étais au lycée, t'étais avec tes amis que t'avais quelquefois depuis le primaire en fait, et dans ta ville natale. Bref, ça peut occasionner beaucoup de changements. Toi, je sais pas, est-ce que t'es allée toi t'es allée à l'école d'infirmière?
Oui.
En fait. Et mais c'était dans ta ville aussi ou t'as dû déménager?
Non, dans ma ville aussi.
Ah, t'as pas dû déménager toi.
Toutes mes études à Lyon, c'est pour les études bibliques que j'ai déménagé.
Mm-hmm.
Donc, j'étais déjà plus âgée.
Ok, mais du coup, toi, t'as déménagé pour l'université?
Oui.
T'as changé de ville?
J'ai pas changé de ville, mais j'ai quitté la maison de mes parents. Pour aller vivre à l'école, à l'université, à l'époque, j'avais 18 ans.
18 ans. Et oui. Tu t'envisageais ça comment, de partir vivre?
J'étais contente.
Ah ouais?
La liberté!
Oui.
Oui, à l'époque, moi, j'étais un peu comme tous les jeunes. Hein. Mm. J'avais besoin de liberté. Et parfois, je pouvais me dire, mais mes parents, ils m'empêchent de sortir, ce genre de choses. Et moi, j'avais besoin de liberté. Et quand j'ai pu aller vivre à l'université, moi j'étais trop contente. J'étais comme waouh, j'ai cette liberté là. Mais là où j'ai aimé quand même ma transition, c'est que j'ai pas chaque week-end je revenais à la maison, ou au moins aux 2 semaines. Mais c'était plus chaque week-end. Je revenais à la maison, je voyais mes frères, mes sœurs, puis ma mère préparait, bien sûr, et je pouvais rentrer avec.
Tu revenais.
Tu mangeais bien au moins une fois par semaine. Là, je me faisais mes petites réserves pour la semaine, tu vois.
Du coup, c'était une transition en douceur. Parce que
oui.
Ils étaient pas loin, donc t'es pas partie non plus à l'étranger tout de suite, parce qu'après, t'es restée combien de temps à l'université?
Je suis restée 3 ans. À l'université, et puis la 4e année je suis revenue à la maison, et parce que je devais voyager pour aller en Belgique pour continuer mes études universitaires, et cette transition-là, en tout cas, là où moi, ça m'a aidé et là où je pense que ça peut aider un jeune aujourd'hui, c'est que le cordon n'a pas été coupé de façon brute, tu vois. Parfois, il y a des jeunes de 16 ans que les parents envoient tout de suite à l'étranger et ils perdent leur repère parce que quand tu arrives à l'étranger, tu es quand même dans un environnement que tu ne connais pas, en fait. Tu vois, moi, pour avoir immigré, je suis arrivée en Belgique, je ne connaissais personne en Belgique. Enfin, littéralement, tu vois, je connaissais peut-être deux, trois personnes, mais on n'était pas proches. Bah, du coup, c'est vraiment un changement radical où j'ai habité avec une femme que j'aime beaucoup. Quand je vais en Belgique, on se revoit encore, mais que je ne connaissais pas du tout de prime abord. Et c'est tellement de nouvelles aventures que je pense que c'est important de prier pour les transitions. J'ai constaté, parce que dans ma famille, on a beaucoup, tous les enfants en fait ont immigré, et j'ai constaté que là où tu es atterri dans ta transition, si ça commence mal, ça va induire beaucoup de... C'est comme une porte en fait qui s'ouvre devant toi. Et si ça commence pas bien, mais tu risques de perdre du temps alors que tu es en train de vivre cette transition-là. Donc c'est important de prier pour nos transitions. Bah, y a le côté où, comme je disais tout à l'heure, le cordon n'a pas été coupé de façon brutale. Je pouvais aller encore voir mes parents si j'avais besoin de conseils et tout, même si j'abusais de ma petite liberté que j'avais avec ce que je connaissais de l'époque, tu vois. Mais j'avais quand même mes parents qui étaient encore là disponibles pour m'accompagner sur ce chemin-là. Ce qui fait que quand je suis arrivée en Belgique, tu vois, j'avais déjà le côté que je peux quand même vivre seule. Tu vois, je peux quand même le faire, je peux quand même être dans un environnement différent sans papa, sans maman à côté.
Si t'étais allée en Belgique quand t'avais 18 ans, tu penses que tu l'aurais vécu comment?
Je pense que ça aurait été beaucoup plus dur pour moi.
On t'aurait perdu.
Ça aurait été difficile parce que pour moi, ça a vraiment été la transition. Mm-hmm. Le fait de quitter la maison pour d'abord aller à l'université, mais revenir souvent. Pour moi, c'est ça qui a été la transition pour m'amener en Belgique. Et si j'avais pas eu ça, je pense que le choc aurait été vraiment brutal. Et je pense que beaucoup de jeunes, je sais parce que j'en ai déjà vu, tu vois, le choc est quand même brutal. Donc, il y a des gens qui quittent, par exemple, de l'Afrique pour arriver au Canada, arriver en Europe.
Quand t'arrives en plein hiver.
Parfois, ils ont 16 ans. Parfois, ils ont 16 ans. Parfois, ils ont 17 ans. Ils viennent juste d'avoir le bac. Et puis là, ils se retrouvent dans un pays étranger. Et quand cette transition l'est loupée, c'est malheureux ce que je suis en train de dire. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés ici, des jeunes, au Canada. Mais on remarque qu'il y a des problèmes de santé mentale qui se sont posés parce que la transition est très brutale. Tu quittes d'un environnement où tu es habitué, par exemple, si je prends le cas du Cameroun, tu es habitué à être entouré de tellement de gens que tu connais, que tu connais pas. Et là, tu arrives au Canada où il fait froid et où les gens ont plus tendance à être chez eux. Tu vois? Et juste ce petit détail-là, ça peut sembler insignifiant, mais ça traite des dépressions pour beaucoup de personnes parce que ce moment n'a pas été préparé. Cette phase n'a pas été préparée. Donc, c'est important vraiment de préparer les changements qui arrivent dans nos vies.
Toi, tu l'as vécu comme ça en arrivant au Canada. Bah, toi, tu as rejoint une école biblique, donc tout de suite, il y avait un groupe, il y avait des gens autour de toi.
Je pense que c'est ça qui m'a aidée. Je pense qu'au début, je voulais habiter toute seule.
T'avais quel âge?
Je venais d'avoir 22 ans.
Ok.
Donc, j'étais quand même déjà... Mais je quittais chez mes parents. Moi, jusqu'à mes 22 ans, j'étais encore dans la même chambre avec ma sœur. J'avais toutes mes habitudes encore chez les parents. Puis quand je suis arrivée, au début, je pensais vouloir vivre toute seule parce que j'avais un peu peur de vivre en colocation, puis que ça se passe mal, ayant toujours été avec ma famille, et j'avais peur que ça fasse un clash. Puis finalement, en fait, je me suis retrouvée avec deux colocataires, puis j'ai vécu en colocation, je pense, un bon 5 ans.
Ah ouais.
Alors il y en a certaines avec qui ça se passait très bien, d'autres avec qui c'était un peu plus compliqué. Mais c'est ça qui m'a sauvée parce que effectivement, ça a créé un environnement où tu rentres, t'es pas tout seul. Et c'est vrai que le Canada aussi, c'est un peu quelque chose de particulier où justement, on a un peu plus de mal à s'intégrer avec les Québécois parce que juste, tu sais, c'est plus comme ça la culture. Mais à l'école biblique, justement, c'est beaucoup de Français qui venaient. Donc, très rapidement, on a créé une communauté. Et je pense que c'est ça qui m'a aidée dans la transition à ne pas me retrouver toute seule et à retrouver quand même des personnes avec qui je pouvais parler, échanger, retrouver un peu le climat familial que j'avais toujours connu et qui me manquait, mais encore aujourd'hui.
Parce que toi, t'es hyper famille.
C'est
en
ça
plus.
Que j'allais dire. Pour moi, encore aujourd'hui, je pense que c'est la chose la plus difficile dans ma transition, c'est d'être loin de ma famille, c'est de pas pouvoir les voir autant que je peux. Mais la chose que je dis tout le temps, c'est que le sacrifice en vaut la peine parce que finalement, c'était une transition qui était dirigée par Dieu et c'était un moment vraiment important dans ma vie et dans ce que je suis devenue après. Donc je sais que ça m'a toujours portée parce que je savais que je devais être là et que c'est Dieu qui m'avait amenée jusqu'ici. Le sacrifice en a toujours valu la peine, même si les larmes coulent toujours quand on va se séparer. Même si on sait qu'on se revoit dans 3 mois. mais quand on sait qu'on est au bon endroit et que vraiment on se sent porté par Dieu, je pense que c'est ça aussi qui peut nous aider dans notre transition et, mm-hmm. et que ça se fasse au bon moment et de la bonne manière, comme le disait Aurélie.
Mm-hmm. Toi, Nadège?
J'y vais pas quitter la maison. pour commencer l'université. J'étais à la maison. Donc, j'allais à l'université, je revenais chaque soir à la maison. Mais déjà là, j'allais au cours, mais j'avais déjà commencé aussi dans le groupe Gaël. Alors, des fois, après les cours, je dois aller prester dans une église et puis revenir le soir à la maison. C'était pas facile, mais j'étais à la maison. Moi, mm-hmm. C'était pas une étape, c'était pas beau, j'étais avec ma famille.
Quand t'es partie de chez toi, quand tu t'es mariée?
Il faut dire que c'est long. J'étais partie d'abord de chez moi avec ma sœur. Mm-hmm. On a habité ailleurs. Et puis après, nous sommes revenus chez un de nos frères qui voulait qu'on revienne chez lui. C'est à partir de chez mon frère que je me suis mariée.
D'accord, ok. Mais toujours avec ta sœur.
Toujours.
Ton binôme. On aimerait bien la voir, ta sœur, serait cool.
Vraiment.
Quand elle vient.
Un jour.
Ouais. Très chouette. On t'attend. Et un point aussi par rapport, t'as dit, c'est un moment important. Mm-hmm. On va voir d'autres transitions de la vie. Mais et d'ailleurs pour toi aussi, cette transition a été importante au niveau de la foi. Et j'ai souvent entendu, puis j'ai vu aussi les jeunes quand ils partent, qu'ils aient 18 ans ou 22 ans ou 25 ans. Mais c'est juste ce moment en fait où tu pars et tu quittes vraiment. Tu quittes. Peut-être que tu changes pas de pays, mais tu reviens plus tous les week-ends et c'est là où tu vis une certaine autonomie. Mais c'est aussi l'épreuve de la foi. Et si tu te disais chrétien, chrétienne, mais que ce moment-là, en fait, c'est l'épreuve pour voir est-ce que vraiment j'ai une foi à moi ou est-ce que ma foi, elle était basée sur parce que j'avais une famille, parce que mes parents étaient là, parce que je me posais pas la question. En fait, j'allais à l'église, etc. Mais là, je suis plus dans la même ville, je suis livrée à moi-même, j'ai le choix, je suis pas obligée d'y aller. Si j'ai pas envie d'aller, je vais pas à l'église. Et en fait, il y a plusieurs personnes à ce moment-là, leur foi soit va prendre vraiment un creux et puis tu sais c'est le témoignage où tu dis bah t'es je suis partie là j'ai commencé à sortir là 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 et puis plusieurs années plus tard on les retrouve ou d'autres bah c'est le moment où je me suis engagée, je marchais avec le Seigneur mais c'est le moment où je me suis engagée parce que t'es face à ce choix où c'est ma foi à moi, il y a plus personne qui me dit quoi faire, si je dois le faire c'est ma gestion de mon temps, la gestion de mon horaire, de mon argent, de mes amis, de mes relations. Je rentre si je veux, je ramène qui je veux chez moi. Et du coup, bah, c'est vraiment le moment où tu te dis, bah, est-ce que c'est ma foi à moi? Et toi, tu venais pour une école biblique, mais quelquefois, même l'école biblique, ça fait pas du bien à la foi parce que c'est une question de cœur, tu vois, c'est pas une question d'école.
Et quand je suis arrivée pour l'école biblique, je voulais me former pour la louange et tout ça, mais j'étais encore dans un climat où quand j'étais en France, mes amis, j'avais pas beaucoup d'amis chrétiens, je sortais encore beaucoup, etc. Donc quand je suis arrivée, je me rappelle, il y a eu un vendredi soir à la jeunesse où vraiment je me suis engagée avec Dieu et j'ai dit, OK, Seigneur, je suis là pour toi, puis je mets tout le focus sur toi. Parce que je pense que s'il y avait pas eu cette soirée-là, ben je pense que j'aurais contacté d'autres amis que j'avais aussi et puis j'en connaissais du Canada qui avait des soirées, des trucs comme ça, donc je pense que j'aurais pu continuer à être mm-hmm. entre les deux. Donc ça a été vraiment un moment de décision parce que je le voyais un peu comme ça, je me suis dit OK, liberté, là j'ai le choix de pouvoir faire ce que je veux, de ne plus être obligée de mettre, tu sais, des trucs bêtes, plus obligée de ranger derrière moi parce que ma mère est toujours en train de me demander de ranger, plus obligée de toujours cuisiner, nanana, je peux cuisiner, manger ce que je veux, plus besoin de... Et aussi, bah, liberté de pouvoir plus être redevable envers personne et prendre des décisions et tout ça. Donc là, vu que je venais pour une école biblique, je pense que Dieu, il savait très bien, il m'a dit « Ok, ma petite, là, je vais te tenir, puis tu vas rester, tu vas t'accrocher à moi. » Mais quand je suis arrivée dans mon cœur, moi, je voyais ça de... Je vais continuer à être un pied dedans, un pied à l'extérieur, continuer à faire comme... sauf que cette fois-ci, il n'y a plus personne qui me surveille.
C'est bon, ça. D'ailleurs, par rapport à ça, un conseil que je peux donner aux parents qui nous écoutent aujourd'hui, quand la Bible dit « éduque ton enfant selon la voie qu'il doit suivre », il faut vraiment le faire. Même si les résultats ne semblent pas visibles tout de suite, je le dis parce que la chose que je me rappelais souvent, quand j'ai eu comme ma liberté, comme on est en train de dire, je me rappelais des paroles de mon père. Je me rappelais de l'attitude que mon père aurait eue si je me retrouvais dans certaines positions.
C'est vrai.
Tu vois, et ça m'a gardé quelque part. Tu vois, j'avais pas, j'allais à l'église, mais j'étais pas née de nouveau. Du coup, ben, même lorsque j'allais dans mes délires avec mes amis, il y a des zones que moi, j'arrivais pas à franchir. Mm-hmm. Parce que il y avait toujours une voix à l'intérieur de moi qui était comme, c'était mon père pour moi. C'est que ton père, ça passe pas, tu vois. Il y avait toujours ce truc parce que mes parents m'ont aussi éduqué d'une certaine manière. Tu vois, même dans les débordements, je pouvais entendre cette voix-là à l'intérieur de moi. Donc, j'encourage vraiment les parents à ne pas se décourager. Lorsqu'on parle des transitions avec les enfants et tout, ne pas se décourager, toujours insister, toujours parler, toujours dire ces choses-là, parce que vous ne savez pas le jour où votre enfant va entendre le son de votre voix dans sa tête lorsque l'enfant sera confronté à certaines situations. Donc, je pense que c'est vraiment important de le faire pour des parents.
C'est vrai, c'est un bon encouragement, mais ça fait partie de la préparation dont tu parlais. Et je pense que quelquefois, en tant que jeune, on a tellement hâte de partir vivre une aventure, d'aller à l'extérieur, de découvrir autre chose, qu'on oublie cette préparation et on part un peu la fleur au fusil. Et c'est aussi en tant que parents à nous de pouvoir équiper nos enfants, mais aussi préparer le terrain. Il y a des endroits où on peut connaître des gens, on peut connaître des familles. Bah, c'est de les contacter pour qu'il y ait un accueil, qu'il y ait quelque chose, s'assurer que notre enfant, même s'il ne va pas vivre là-bas, mais qu'il ait une personne ressource, que pour son anniversaire, il ne soit pas tout seul, que s'il y a les fêtes de fin d'année... comment est-ce qu'on peut faire de commencer en amont à créer quelques petites connexions ici et là. Et puis s'il y a une église, et ça c'est vraiment important, c'est en fait ça devrait être un point crucial, c'est est-ce qu'il y a une bonne église, une église où je vais pouvoir aller vivre ma foi. J'entendais encore dernièrement une jeune fille qui a choisi une ville parce que elle trouvait que l'école avait l'air mieux, mais ça avait l'air, c'était assez kiff avec une autre ville, mais dans une autre ville il y avait une bonne église. Et finalement, l'église, la ville où elle est allée pour faire son école, il n'y a pas d'église et elle le vit pas bien parce qu'elle se sent seule, elle se sent sèche spirituellement, etc. Et ça à prendre en compte. On se dit, je pars pour mes études, mais je reste, si je veux rester attachée au Seigneur, c'est important que j'ai une église et ça va faire partie des critères, en fait, des choix que je dois mettre devant Dieu. Seigneur, je veux une église, où est-ce que je vais? Quand t'arrives et que t'as zéro regardé s'il y avait une église et que tu découvres, ah ben non, mais en fait, il y a rien ici. Il y a pas d'église. En plus, il y a pas de transport. Ben ça, c'est des choses, en fait, qui font partie de la préparation, parce qu'il y a des choses maintenant, en plus avec Internet, tu peux le savoir en fait qu'il n'y a pas d'église, tu peux le savoir qu'il n'y a pas de transport, tu peux savoir que quand tu viens nous dans notre coin, nous ici, où on est, bah, il n'y a pas de transport en commun. Donc quand les gens disent non mais je prendrai le bus, non tu prendras pas le bus. Oui tu peux prendre le bus, mais là où le bus va t'arrêter, bah après il en faut encore pas. 3 bus pour t'arrêter.
Il y a des bus scolaires.
Non mais c'est ça, et à peine. C'est selon où t'es. Mais c'est tout, et c'est des choses comme ça qui peuvent venir faire que tu, c'est une mauvaise transition, et tu t'engouffres dans la solitude, et puis tu commences à développer toutes sortes de choses. Donc se préparer, ça c'est vraiment un point important. Aussi il y a d'autres transitions, la transition là Nadège, tu vas pouvoir nous le dire, c'est toi qui as le plus d'expérience dans ce domaine, la transition de maman. On aurait peut-être pu parler de la transition de mariage avant. T'as vécu une vraie transition, toi, au mariage?
Bon,
un vrai ajustement.
Je dirais que la colocation, pour le coup, a vraiment aidé mon mariage. Puis je sais que mon mari a fait un an de colocation avant qu'on se marie aussi. Puis je pense que ça nous a sauvés.
C'est toi qui lui as dit.
On en avait parlé, ouais. Puis je trouvais ça important qu'il puisse. On s'est connus dans cette transition-là où lui aussi il partait. Puis j'étais contente de savoir qu'il allait en colocation au moins un an.
Tu penses que ça a changé les choses?
Ah oui, oui, oui.
Je pense que c'est
positif. Ah oui. Il a une mère excellente. Mais du coup, elle faisait tout. Mmh. Et là, il a dû apprendre à se débrouiller. Et quand on a du coup emménagé ensemble après le mariage, je pense que ça nous a beaucoup aidé. Mais je pense que la transition d'habiter avec mon mari a été plus intense que la transition que de vivre avec des colocataires. Mmh. Parce que des colocataires. Déjà, on est des filles, donc on s'était. Il y a des choses logiques, des choses qu'on aime, qu'on fait ensemble. Vivre avec mon mari où on est autant différents, avec une éducation différente, mm-hmm. une culture différente, ça a été. Et je trouve que ça, on ne nous prépare pas assez dans les préparations au mariage. On nous parle de beaucoup de sujets, mm-hmm. tu sais, des fondamentaux, des choses qui sont importantes.
La vie, le quotidien.
Mais on ne nous parle pas du quotidien. Mm-hmm. On nous parle pas de quand on arrive et que chacun on a été éduqué d'une manière ou d'une autre. Mm-hmm. Ça va faire des clashs, puis j'en ai peut-être déjà parlé, mais un truc bête. Moi, c'est, par exemple, le beurre. Ça a été éprouvant pour moi. Parce que mes parents, on en reparlait encore dernièrement, ils m'ont toujours éduqué à ce que mon beurre doit être propre, lisse, le couteau bien, comme ça. Sauf que les Québécois, ils mettent leur blé d'Inde dans le beurre. Ils mettent des coups de couteau. Donc lui, c'est ce qu'il faisait, il mettait des coups de couteau. Mon beurre était, ça me frustrait. Et j'entendais ma mère, avec son couteau, je repassais. Eh ben, ça a pas duré longtemps. À un moment donné, je me suis dit, Sandra, en fait, ça va pas marcher. Il va falloir que tu choisisses tes combats. Parce que tu vas pas te battre pour le beurre.
Ça va pas marcher, le beurre ou le mariage?
Ça va pas marcher, la frustration du beurre. Et à ce moment-là, ça a été toujours...
Ce genre de truc, ça pouvait être
ça m'énervait, moi, parce qu'on m'a toujours reproché de, il faut faire attention. Donc c'était j'en avais fait un combat. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, là, il va falloir choisir mes combats. Et à partir de ce moment-là, ma perspective a changé. À chaque fois qu'il y avait un conflit d'éducation ou d'habitude ou ce genre de choses, c'était OK, est-ce que c'est un combat qui vaut vraiment la peine de mener, d'être mené, ou est-ce que finalement, en fait, on peut juste laisser passer les choses à partir de là, mais j'aurais aimé qu'on me le dise avant de me marier, ça, par exemple. Mais à partir de ce moment-là, c'était pareil, on range l'éponge, moi je le range derrière, lui le range en bas. Et on va pas se battre. On va le mettre là, puis au fur et à mesure, on a développé nos habitudes. On va nous dire, il faut parler des sujets, des finances, des sujets. On parle pas de c'est quoi ton éducation, de quel côté du lit tu dors. Dormir dans le même lit, moi je dors et lui il bouge comme pas possible. Ça m'a pris du temps à m'habituer à avoir quelqu'un qui... Mais on n'en parle pas, ça, l'éducation au mariage. Je pense que c'est à cause de ça que la plupart du temps, la première année, c'est beaucoup de conflits. Mm-hmm. Dans les jeunes mariés, c'est pas tout le temps comme ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de conflits parce que on pense parler de choses essentielles, mais finalement les choses du quotidien sont tout aussi importants et on n'en parle pas. La manière dont on prie, la manière dont on vit notre foi, et on s'attend à ce que d'un coup, allez, tous les matins, on va se lever ensemble, on va prier ensemble. Oui, mais sauf que moi, j'aime prier le soir. Ah ben moi, je prie à voix haute. Ah ben moi, je prie à voix basse. Ben toutes ces choses-là du quotidien, je pense que c'est des choses qu'on devrait penser à discuter aussi.
Et la manière dont on mange aussi.
Ouais.
C'est le sommeil, t'as raison. Toutes ces choses-là, très important, je me le note. plus développer le côté quotidien du mariage. Mais c'est vrai, c'est une transition. Et surtout quand t'as vécu dans une fratrie, quelle fois tu te rends compte que tu vas vouloir régler tes conflits avec ton mari ou ta femme au début, comme tu réglais avec tes frères et sœurs. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de parents déjà pour ton frère. Et c'est pas ton frère, c'est pas ta sœur. Donc en fait, même tout ça dans cette transition, c'est que je peux même plus régler mes conflits comme avant.
Ils me comprennent pas. Ils comprennent pas comme ma sœur me comprenait.
Exactement. Puis ça serait, on va pas se réconcilier de la même façon. Oui. Mes paroles seront pas. Non, parce qu'en fait, je suis pas ta sœur, je suis pas ton frère. Donc ça va pas passer. Et ça, c'est beaucoup. C'est vrai que cette transition, c'est beaucoup de choses du quotidien, Et puis finalement, on se dira, ça va être super le mariage, et c'est super le mariage, mais dans ces petites choses du quotidien qui peuvent devenir des irritants, mais qui peuvent prendre toute la place. Et c'est un peu comme tu disais, autant quand on déménage, etc., le début va quand même être capital. Ça veut pas dire qu'on peut pas jamais s'en remettre, mais quand on reste coincé dans ces histoires de beurre et d'éponge, ça donne le ton, en fait, à un mariage qui peut être ultra conflictuel et tendu sur des petites choses comme ça, parce que le quotidien est rempli de tous ces petits irritants. Ça fait qu'on est tout le temps un petit peu énervé.
Tout le temps, des guerres, en fait.
Un petit peu,
ouais.
Pour tout, pour rien. Et l'ambiance est tout le temps un petit peu comme ça, électrique, parce que on n'arrive pas à s'accorder sur le quotidien. Et c'est vrai qu'on s'est accordé sur les grands principes de la vie, mais on n'arrive même plus à avoir ces grands principes de la vie, parce que c'est comme le beurre, dès qu'il sort le beurre, de tout s'arrête. C'est là. Qu'est-ce qu'il va faire encore avec le beurre?
Dans mon beurre. Achetez chacun votre propre beurre, voilà. Et le problème est réglé.
C'est vrai, j'avoue que j'aurais pas très bien vécu, hein. Qu'il torture le beurre comme ça m'a un peu énervé.
Mais bon. C'est vrai, c'est un truc de bête.
Quand tu racontais, je l'ai vu.
Choisir ses combats. Choisir. Qu'est-ce qui va nous rapprocher, nous permettre d'être, de bâtir ensemble, ou qu'est-ce qui va nous diviser pour des fois des bêtises?
Toi, la transition mariage?
Ça va.
Tu veux passer, t'as le droit de dire joker.
Mais c'était pas aussi, c'est comme Sandra en train de le dire, c'était pas aussi évident que ça. C'est vrai qu'on vous parle de mariage. C'est vrai que j'ai eu quand même une préparation, on nous a vraiment préparé, mon mari et moi. C'est vrai, on vous prépare, mais c'est pas sur tout.
Non.
C'est pas vraiment dans le quotidien. Il y a tellement, vous retrouvez chacun, comme Sandra l'a dit tout à l'heure, chacun a eu son éducation, sa manière de vivre, ces choses que tu as commencé à faire depuis des années, et tu arrives et l'autre, des choses que tu trouves tellement importantes dans ta vie, lui c'est pas aussi important que ça. Et lui, ce qu'il trouve important, tu trouves pas important. C'est pas aussi facile de vivre des vœux comme ça ensemble. Moi, les désordres, je supporte pas. Les désordres à table non plus. Moi, quand on mangeait nous deux, ça devait être formel comme là, on me l'a apprise. Pas de coudes sur la table à manger.
Ah ouais,
oui, mettez des coudes. Moi, ça m'énervait. Mais on met pas les coudes, on place pas des coudes sur la table. Et puis, il me disait, mais je suis chez moi, arrête un peu. J'ai l'impression d'être à l'école et tout ça. J'ai dit, mais on place pas les coudes. Bon, ça énervait, au fait. Ça m'énervait. Puis j'ai dit, non. Et tu vois, c'est ce mot qui, moi, je dis, la bienséance. Oh, la bienséance. Il m'énervait pas ça par la bienséance et tout. Alors, c'était des petites choses comme ça au quotidien qui sont pas faciles. C'est vrai qu'on peut te préparer. Peut-être nous voyons les grandes choses. On ne prépare sur des grandes choses, des grands sujets. Les finances et tout ça, la sexualité. Mais des fois, c'est petites choses qui créent des frustrations, au quotidien. Alors, on a essayé de, et puis, je me suis dit, Nadège, ok. Lâche-le. Au fait, c'était aussi simple que ça. C'était pas, hein, j'ai dit, lâche-le. Mais quand tu as lâché, au fait, ce qui était étonnant, quand j'ai lâché, il a commencé à respecter ça. Il le faisait même instinctivement, je sais même plus comment ça se passait, mais il était tout le temps normal, les poignets sur la table, c'était plus le coude. Et ça s'est passé comme ça. Et moi, je suis dans une famille où on parle à haute voix. Tu as l'impression que les gens sont en train, les gens ont une dispute là, à côté, on crie. Quand tu cries, l'autre veut crier encore plus fort. On parle comme ça, c'est animé. Alors lui, il comprenait pas.
Pourquoi vous êtes toujours fâché?
Pourquoi tu cries? Il dit toujours, pourquoi tu cries? Je dis, mais je crie pas! Mais moi, quand je réponds, je crie pas! Tu cries. Alors, je dis, mais vous êtes nombreux chez vous. Mais pourquoi tu supportes pas? Non, parlez pas comme ça. Et moi, j'avais l'habitude de parler plus fort. Bon, on a commencé à essayer des, comment on dit, de trouver un équilibre. Quand je parle, ou bien des fois, quand je parlais comme ça, il a dit, je te connais, je sais que c'est pas tes intentions, mais là, j'ai l'impression que tu cries sur moi. Et puis, j'étais là, ah, oh, non, je te parlais, je criais pas sur toi. Il a dit, si, ça donne cette impression. Donc, j'ai appris à doser ma voix, parce que c'est comme ça que nous, on parlait chez nous, on crie, on fait des débats, et chez eux, c'était pas comme ça du tout. Alors, j'ai appris dans le quotidien de commencer à regarder les priorités, comme Sandra a dit, cherche d'autres combats, parce que il y a de ces choses, soit l'un cède, soit vous trouvez un équilibre, et ça passe. Mais c'est vrai que c'est pas facile de vivre avec quelqu'un, surtout que je n'ai jamais été en colocation avec quelqu'un. Quand j'ai vécu ailleurs, c'était avec ma sœur, donc on a déjà l'habitude de vivre ensemble. Alors vivre avec quelqu'un comme ça, c'était pas facile. Je ne veux pas voir les habits par terre, tu laisses. Pourquoi? Je dis, le panier est là. tu aurais pu prendre directement, tu mets dans le panier.
Je suis pas un basketteur.
Donc, tu vois, c'est pas ces petites choses-là au quotidien. Et puis, le moment où tu dois comprendre que il a besoin de rester calme. Mmh. Toi, tu parles tout le temps.
Oui, c'est ça. C'est
aussi au fait, il a envie de te dire, je vais rester calme. Je peux rester dans le silence. En fait, j'avais du mal à comprendre que là, il m'aime, mon mari, mais il veut rester calme. Soit il pense à quelque chose. Moi, je voulais toujours parler. Et puis quand tu parles, tu vois, il devient de plus en plus silencieux. Et tu as l'impression que tu combles trop de vides. Et j'ai appris aussi à respecter son... Comment dire, à respecter ces moments-là.
Mm-hmm. Et à le reconnaître.
Oui, à reconnaître. Mm-hmm. Là, tu sens qu'il doit rester. Je dois le laisser. Mm-hmm. Et j'ai appris à faire ça. Et moi-même, j'ai commencé à rester calme aussi. Je ne voulais pas qu'on m'embête aussi à un moment. Mm-hmm. En fait, des fois, je suis étonnée de me voir au travers de lui. Mm-hmm. Ah, tu dis, mais c'est moi qui ai l'habitude souvent de faire ça. Et lui, il se voit au travers de moi. En fait, à force de rester ensemble, on a commencé à adopter aussi les habitudes de l'autre. Mais c'est pas toujours facile. Et puis la maternité, et puis toutes ces choses. Mmh. Avec les mères surtout, quand l'enfant arrive, il y a que l'enfant. Il y a que cet enfant. Le mari, je ne le vois plus. Je ne vois que l'enfant. Et souvent, les hommes aussi souffrent de ça. Mmh. Les femmes, quand elles arrivent à avoir des enfants, avant de trouver l'équilibre, elles sont vraiment focalisées sur les enfants. Et ils oublient qu'il y a quelqu'un à côté, quelqu'un qui t'aime et que tu dois aimer aussi, dont tu dois t'occuper aussi. Alors nous sommes tellement focalisés sur l'enfant. C'est vrai, ça arrive, c'est quelqu'un de nouveau, on l'avait pas dans notre quotidien. L'enfant est arrivé, on donne l'attention, mais il faut pas oublier aussi que l'autre est à côté. Il a besoin aussi de cette attention. Il fallait vraiment que j'arrive à... Comment dire ça? À trouver un équilibre par rapport à cela. À s'occuper de mon enfant, à l'aimer, à prendre soin, mais à savoir aussi qu'il y a quelqu'un d'autre qui est à côté de moi, qui a besoin de fois qu'on discute. Il n'y avait plus de ces temps-là, parce que dès qu'il parle, oh biberon, dès qu'il parle, oh tu veux faire telle chose, parce que surtout l'aînée a été vraiment, elle était vraiment comme, elle était réglée comme une horloge. Toutes les 3 heures, même quand elle dormait, tu vois vraiment qu'elle dort profondément. Quand c'est 3 heures du temps, 3 heures après, elle doit pleurer pour prendre son biberon. Et tu te dis, je suis dépassée par cela. C'était le premier accouchement, c'était quand même, j'étais un peu dépassée. Alors, je n'arrivais plus à m'occuper vraiment de faire attention à mon mari. Il était là, des fois, il s'est réveillé, il était là vraiment tout gentil, il veut vraiment s'occuper de son enfant, donner les biberons. Mais moi, j'étais focalisée. Où je trouvais aussi des fois que lui, il faisait pas bien. Il faisait pas ça bien, laisse-moi faire et tout. Et pourtant, je le privais de son enfant aussi, parce que des fois, nous, les mères, comme on porte les bébés, on pense qu'on connaît tout, on maîtrise tout, ou on veut partager cette expérience. On oublie que le père aussi doit partager cette expérience avec son enfant, son premier enfant. Alors, j'ai compris que je peux pas, moi, savoir tout faire. Mmh. Et lui aussi, il a besoin de passer ses temps avec son enfant. Et finalement, je l'ai laissé, j'ai cédé. Tu avais le cœur quand l'enfant pleure. Mais c'est lui qui veut se lever, c'est lui qui veut faire quelque chose.
Écoute,
tu
restes là.
Tu fais rien. Et tu entends qu'il est en train de parler à l'enfant. Il parlait. Et l'enfant, dès qu'il entendait sa voix, il se taisait. Et mais toi, tu peux dire, peut-être l'enfant avait l'impression que j'ai crié.
Il disait, pourquoi tu cries sur moi?
C'est vraiment ça, c'est pas aussi facile.
Mais parce que tu vois, chaque nouvelle transition, c'est qu'en fait, on doit réaliser, on apprend. On se retrouve dans une situation où on est des débutants et pourtant on se dit j'ai un certain âge, j'ai appris, j'ai de l'expérience, mais à chaque nouvelle étape, on se retrouve dans une situation où on apprend. Même dans un travail, tu changes de travail, tu te retrouves le petit dernier, la petite dernière qui arrive, qui doit tout réapprendre. Oui. Tu dois apprendre même où tu dois te stationner pour aller à ton travail, tu dois apprendre dès la vie de l'entreprise, leur logiciel, leur façon de travailler, là là là, et tu te dis ouais, j'ai 10 ans d'expérience dans le métier, puis j'ai l'impression que tu sais, je suis en bas de l'échelle et de tout réapprendre. Mais c'est aussi ça qui va faire qu'une transition va bien se passer, c'est de se dire je vais être capable de m'adapter et d'apprendre à nouveau. Attends. Pas de rester coincé. Moi, je sais. Parce que c'est dans ces cas-là où on risque de, on sait pas déjà, et on risque de pas évoluer et de vivre tout le temps ce décalage. Un peu comme la Bible donne l'image des vieilles outres avec le vin nouveau. Mais en fait, il y a des nouvelles, et quand il y a des certaines transitions, tout doit changer. Oui. Mais ma mentalité aussi doit changer. Oui. Mon approche doit changer. Oui. Et je peux pas refaire les mêmes choses que je, ah oui, mais c'est comme, des gens qui arrivent dans une entreprise, je reprends cet exemple du travail, et qui te parlent, ça fait 5 ans qu'ils sont là. Dans mon ancienne entreprise, on faisait ça. Dans mon ancienne entreprise, on faisait ça. Oui, dans mon ancienne église. C'est comme, mais pourquoi t'as changé?
Non, moi, j'avais déjà dit à quelqu'un.
Je pense que tu aurais dû rester.
Et puis, parfois, tu vois, dans la Bible, on dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, et quand je suis devenue grand, en fait, j'ai enlevé ce qui était de l'enfant. Oui. Et c'est important de réaliser que quand on fait une transition, on est passé d'un stade à un autre. Et il y a des choses qu'il faut enlever. Mm-hmm. Il y a des choses qui ne t'accompagneront pas dans ta prochaine saison, qu'il faut accepter d'enlever, en fait. Oui. Et parfois, on veut s'accrocher à certaines choses parce qu'on a toujours eu l'habitude de faire comme ça, parce qu'on est à l'aise, on est confortable avec ces choses-là. Mais il faut accepter le fait que dans ta transition, mais tu vas voir que t'es enfant dans cette transition-là. Peut-être t'étais déjà grand-papa dans l'étape d'avant, mais dans cette étape-ci, t'es un enfant. Mmh. Et en tant qu'enfant, bon, j'aime souvent dire ça aussi, la folie a attaché au cœur de l'enfant. Ah, oui. Il y a des erreurs que tu vas faire dans ta nouvelle saison qui sont normales, parce que ça relève du fait que t'es un enfant. Le fait que tu te battes pour du beurre, c'est parce que c'est nouveau pour toi.
Dis comme ça.
C'est parce que c'est nouveau pour toi.
J'ai pris la maturité plus vite que lui.
J'ai des choses à travailler encore. Tu vois, donc moi, je trouve que parfois, on se met beaucoup de pression.
Beaucoup.
Alors que ton environnement, comme tu dis, Annabelle, tu vas apprendre de nouvelles choses. Et c'est OK avec ça. Mais il y a aussi des choses qu'il faut accepter de dire, c'est fini. Et on parle de transition de la vie, mais il y a aussi des transitions simples. Hein, comme avant, j'étais colérique, mais maintenant, je ne veux plus être cette personne colérique. Et il y a une transition qui doit se faire dans mon caractère. Et je dois laisser les choses de la colère derrière moi pour avancer dans...
C'est là que tu dis aux gens, avant, tu sais, quand j'étais colérique, c'est ça que j'aurais dit. Aujourd'hui...
Donc là, c'est la preuve que tu dois encore, tu vas être encore enfant dans le domaine. Tu vois, tu dois encore te former.
Tu seras aussi en face des situations qui te poussent.
C'est ça.
À crier et tout, mais bon.
Mais tu auras grandi. C'est comme ça qu'on apprend. Mmh. Et aussi, le processus d'apprentissage est, pour moi, c'est tout le temps. Mmh. Parce que dans la vie, il y a tout le temps des transitions. Mmh. Tu vois, c'est tout le temps. Et il faut le réaliser, en fait. Se dire, OK, même si j'ai 50 ans, si j'ai jamais fait ça dans ma vie, je suis enfant dans ce domaine-là. Et il faut l'accepter. Le mot enfant, parfois, dérange certaines personnes. C'est la même chose avec la foi. Si tu viens de naître de nouveau, tu viens de donner ta vie à Jésus, même si tu l'as fait à 70 ans, t'es enfant dans ce domaine. Et il faut accepter de passer les étapes que l'enfant va passer. Il faut accepter de prendre du lait d'abord. Après, tu vas prendre la nourriture solide.
C'est ça.
Après, tu vas manger d'autres choses. Après, toi-même, tu vas devenir père et puis tu vas t'installer dans ce nouveau domaine dans lequel tu es allé. Donc, acceptons d'être des enfants.
Et si on a l'entourage aussi qui le permet, c'est de pouvoir poser des questions. Mmh. Dès quand tu te maries, il y a des questions que tu n'avais jamais pensé demander à ta mère parce que tu n'étais pas dans cette situation-là. Mmh. Mais là, tu dis, mais toi, quand tu t'es mariée, il y a des trucs que papa faisait qui t'énervaient.
Pourquoi tu ne m'as jamais dit?
C'est ça. et parce que soi-même, quand on est arrivé qu'elle voit plus loin dans le mariage, on oublie ses débuts. Et puis finalement, dès quand on en reparle, on se dit, c'est vrai, nous aussi, on a vécu ces ajustements et de pouvoir poser les questions. Et toi, comment t'as fait? Qu'est-ce qui t'a aidé? Comment est-ce que je pourrais faire? Poser ces questions-là, reconnaître, je suis nouvelle dans cette étape de ma vie, donc j'ai peut-être besoin de demander à ceux qui sont passés là avant des conseils. Exactement. C'est quoi votre retour d'expérience? Comment ça s'est passé? Ça a été enrichissant. Puis je pensais à Ruth qui a vécu plein d'étapes dans sa vie et elle était jeune fille, elle s'est mariée, elle est devenue veuve, elle est partie avec sa belle-mère, elle arrive dans un nouvel endroit, des nouvelles personnes, elle fait une nouvelle activité professionnelle, elle est glanée, sa situation économique a changé, mais sa belle-mère, Naomi, reste une personne ressource, une personne conseil, et dont elle prend soin, mais aussi qui lui donne des conseils, qui lui donne des indications, parce que dans ce nouveau pays, avec ces nouvelles personnes, ces nouvelles coutumes, Naomi, elle est familière, en fait, avec, je dis pas qu'elle a raison sur tout, mais elle est familière, et Ruth s'est attachée à elle, à sa sagesse, à son expérience, et quand on a la possibilité d'avoir ce genre de personnes, c'est important, je pense, que de pouvoir s'attacher et de pouvoir observer et de poser certaines questions. Donc n'ayons pas peur dans chaque transition de notre vie de se dire je redeviens un enfant, et ça peut être des transitions qui arrivent tard aussi, quand on passe à la retraite, quand on arrête de travailler, quand on est un jeune retraité, on n'a jamais vécu la retraite, de se préparer. Comment est-ce que toi t'as vécu la retraite? Qu'est-ce que t'as trouvé difficile? Je suis un enfant, un bébé de la retraite, alors je vais apprendre à bien préparer et à bien vivre cette nouvelle saison de vie, après être de grands-parents, des enfants qui partent, etc. Bref, toutes ces transitions, on peut les préparer avec le Seigneur. Il peut nous aider. On peut aussi les préparer en posant des questions, en s'enrichissant des expériences des autres, de leurs erreurs et de leurs réussites. Et on est constamment appelé à vivre ces transitions. Donc, soit on va les préparer, on va être intentionnel, soit on risque de les subir et quelquefois d'en avoir aussi les conséquences dans les mois, les années suivantes. Donc, soyons des femmes sages, des femmes intelligentes, bâtissons notre maison avec sagesse et bâtissons ces transitions en ayant ce côté intentionnel. Elles vont arriver, alors je vais me préparer à la ménopause, je vais poser des questions, je vais me renseigner, savoir comment est-ce que je peux vivre la meilleure des ménopauses possibles. Voilà, c'est toutes ces transitions qui sont là dans notre vie. Elles peuvent être spirituelles, émotionnelles, physiques, elles peuvent être géographiques, mais on peut toujours se préparer. Alors c'est notre conseil d'aujourd'hui, préparez-vous pour ces transitions. Et on va se retrouver mercredi, les filles, mercredi, pour une nouvelle émission à table avec Annabelle. Alors, bye bye.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions à table avec Annabelle sur emcitv.com.